En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
En ce deuxième trimestre 2006, l'Académie des sciences morales et politiques poursuit sa réflexion sur la justice. Le 15 mai 2006, Madame Elisabeth Zoller, professeure de droit à l'Université de Paris 2, donnait lecture de sa communication devant les académiciens, communication intitulée « La place de la justice dans la société américaine ». Née en 1950, Madame Elisabeth Zoller est agrégée des facultés de droit en 1980. Elle a été professeure à la faculté de droit d'Angers, puis détachée auprès de Monsieur le ministre des Affaires étrangères en 1983. Elle fut affectée aux États-Unis en qualité de professeure de droit invitée aux universités Cornell puis Rutgers, ainsi qu'en qualité de conseil juridique auprès des Nations Unies en 1985. De retour à Paris, elle est professeure de droit à l'université Panthéon-Assas Paris 2 depuis 1995 et elle est responsable du master recherche droit de common law et directeur du centre de droit américain. Nous rejoignons tout de suite la salle des séances pour écouter la communication de Madame Elisabeth Zoller.
Il y a bien des manières de décliner la place considérable qu'occupe la justice dans la société américaine. Le premier angle d'approche doit être d'ordre institutionnel. Les États-Unis connaissent deux justices. La justice d'État, il y a 50 États et chaque État a son propre système judiciaire, et la justice fédérale. Chaque année, quelques 33 millions d'affaires sont portés devant les cours d'État. Seulement 800 000 environ sont portés devant les cours fédérales. Les cours fédérales ne sont nullement des juridictions d'appel des jugements rendus par les cours d'État. Elles ne connaissent de ces jugements que dans la seule mesure où elles intéressent le droit fédéral. Et le gouvernement des États-Unis, étant un gouvernement de pouvoir limité, ou comme disent les Américains, de pouvoir énuméré, ces affaires sont assez réduites et on peut dire que dans l'ensemble, en gros, la totalité du droit privé, c'est-à-dire le droit civil et le droit pénal, reste dans la compétence des États et ne va jamais devant les cours fédérales. Dans les États, la Cour de justice de première instance est la principale institution du comté. Souvent installée au centre même de la communauté, elle dépend d'une cour d'appel, laquelle dépend d'une cour suprême d'État. En principe, les juges d'État sont élus, notamment pour les cours de première instance, mais au niveau des cours d'appel et de la cour suprême d'État, le système est aménagé de telle sorte que les juges, après avoir été élu, reste en fonction à moins qu'il ne soit recalled, c'est-à-dire rappelé, par un vote populaire ou législatif. Les cours fédérales ne se rencontrent que dans les villes les plus importantes. La justice fédérale est organisée sur trois niveaux. En première instance, les cours de district. Il y en a 94 pour l'ensemble du territoire américain. Ces cours de district sont flanquées elles-mêmes, chacune, d'une cour de banqueroute. La banqueroute étant dans les compétences fédérales et étant dans les compétences du Congrès. En appel, il y a 13 cours de circuit. 12 circuits géographiques qui regroupent 2 à 8 États et un circuit, le 13e, dit fonctionnel, qui est le ressort d'appel des jugements rendus par certaines juridictions fédérales, les juridictions fédérales qui s'occupent des affaires fédérales, dont notamment la US Court of Federal Claims, qui juge de la responsabilité du gouvernement fédéral, la US Tax Court en matière fiscale, la US Court of International Trade pour le commerce international, et enfin, bien sûr, au sommet, la Cour suprême des États-Unis, qui est composée de 9 juges, 8 juges associés, les Associate Justices, et un président, le Chief Justice, qui exerce par ailleurs, avec l'assistance d'une conférence judiciaire, des fonctions de direction et d'organisation de tout le système judiciaire fédéral. Concrètement, dans les États, cours d'État et cours fédérales sont parfois très proches. Parfois, elles se font même face. Comme si, par exemple, en face du palais de justice, sur l'île de la Cité, figurait non pas la préfecture de police, mais pour prendre une comparaison qui soit parlante, l'une des 7 cours d'appel ou l'une des 50 cours de première instance de l'Union européenne, s'il en existait. Un deuxième angle d'approche doit être l'échelle humaine. Dans toute société, la justice, ce sont d'abord des hommes. Aux États-Unis, les métiers de la justice et du droit sont parmi les plus élevés dans l'échelle sociale. Les lawyers, les avocats, ceux qui sont passés par la School of Law, c'est-à-dire la faculté de droit, jouissent d'un grand prestige, comparable en France au prestige de la haute fonction publique. D'un autre côté, un juge aux États-Unis est toujours un homme ou une femme d'âge mûr, ayant derrière lui une carrière professionnelle déjà bien remplie, le plus souvent au barreau, qui est nommé ou élu à ce poste en raison de son expérience et de sa formation. Personnage confirmé, jouissant d'autorité, le juge est la grande figure du droit aux États-Unis. Cette autorité s'exprime dans les jugements qu'il écrit lui-même et qui sont signés de sa main. Une carrière juridique réussie ne consiste pas à devenir un maître du barreau ou un professeur faisant autorité en doctrine, mais à devenir un juge, et si possible un juge fédéral. Dans la société extrêmement égalitaire qu'est la société américaine, on s'appelle facilement par son prénom aux États-Unis, même si l'on ne se connaît presque pas. Le juge est la seule personne à laquelle il soit d'usage de s'adresser à la troisième personne. Enfin, un troisième angle d'approche pourrait être fonctionnel. La justice représente dans la société américaine un grand pouvoir, respecté et parfois redouté, qui tient un rôle sans équivalent dans notre République. On sait depuis Tocqueville qu'il n'est pas de question judiciaire, de question politique, qui ne trouve à se résoudre tôt ou tard en une question judiciaire. On a pu le vérifier lors des péripéties judiciaires du président Clinton, qui en 1999 a frôlé à une voix de majorité la destitution devant, par le Sénat pour avoir menti en justice, suivi l'année d'après par l'intervention de la Cour suprême, qui, au terme d'une attente de 21 jours, est venue souverainement désigner le vainqueur de l'élection présidentielle dans l'affaire Bush contre Gore. Si elle témoigne du rôle politique tenu par le juge dans la société américaine, ces affaires ne sont que l'écume de la mer. Aux États-Unis, la justice est politique, moins parce qu'elle s'attaque à des hommes politiques, ou juge des affaires que nous considérerions comme politiques, la justice est politique dans un sens beaucoup plus fondamental. La justice américaine est politique parce que les affaires de la cité, les choix de la société, son destin, sa liberté dépendent de son aval. Aujourd'hui, la plupart des choix de société aux États-Unis dépendent moins du choix des électeurs que de celui des juges. C'est bien pourquoi la nomination des juges à la Cour suprême intéresse la société tout entière, mobilise tant d'intérêts, suscite tant de passions. Les choix politiques et sociétaux des électeurs peuvent rarement prendre corps sans un contrôle judiciaire. à n'en pas douter, la justice tient une place considérable dans la société américaine. Elle est un pouvoir, un vrai pouvoir. Nombreux sont les meilleurs esprits en France qui, dans la période de crise que traverse notre justice, élèvent leur voix pour que l'on s'inspire de la place de la justice aux États-Unis pour mieux définir celle qui devrait être la sienne en France. L'idée mérite la sympathie, mais elle appelle certaines précisions. La justice américaine est un grand pouvoir pour des raisons qui sont propres aux États-Unis et qui n'ont jamais pu être répétées à l'identique dans d'autres systèmes juridiques. De sorte que le modèle américain de justice est unique. Ces raisons qui ont fait de la justice ce qu'elle est aux États-Unis sont d'abord juridiques. Les États-Unis appartiennent au système de la common law. Elles sont ensuite constitutionnelles. Les États-Unis forment un État fédéral. Elles sont enfin et surtout politiques. Les États-Unis ont choisi de donner à leurs juges le pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois. Tels seront les trois points que je développerai. Les États-Unis appartiennent au système de la common law. Dans ce système, le juge est toujours un grand pouvoir dans l'État pour deux causes principales. La première est que le propre de la common law est de faire du juge, en principe, l'auteur du droit. Le droit commun, c'est-à-dire pour faire vite le droit civil, est fait par le juge, ou plus exactement, il est découvert par lui. Bien sûr, aujourd'hui, dans tous les pays de common law, le droit est plus législatif que jurisprudentiel, et le législateur a remplacé le juge dans l'énoncé des lois. Mais cette intervention législative est variable selon les systèmes juridiques nationaux. Aux États-Unis, elle est toujours restée minimale. La common law est entièrement du ressort des États, et ceci, s'ils sont intervenus pour la changer ou la compléter sur certains points, ne l'ont pas remplacée par du droit législatif. Il en résulte que la vie quotidienne du citoyen, le mariage, la filiation, la procréation, la responsabilité civile, la propriété, les successions, tout cela reste encore très largement façonné par les juges. La deuxième raison de la puissance du juge dans les pays de common law est que dans ces systèmes, le juge est le principal organe d'exécution du droit. Il y a en effet deux manières d'exécuter la loi. Le régime administratif et le régime judiciaire. La France adhère à ce que Maurice Auriou appelait le régime administratif, c'est-à-dire que l'exécution des lois est en principe confiée à des autorités administratives, notamment les services extérieurs de l'État. Les États-Unis vivent au contraire sous un régime d'exécution judiciaire des lois. Il n'y a pas d'administration déconcentrée pour veiller à l'application des lois. L'exécution des lois est laissée à l'initiative individuelle. En cas de violation de la loi, c'est un individu à aller devant le juge et à réclamer qu'on exécute. Sauf dans quelques matières particulières, comme la police fédérale, et je songe en particulier ici au FBI, qui intéresse l'ordre public fédéral, il n'existe pas, comme en France, des administrations chargées de protéger le citoyen et de faire respecter le droit. L'individu a deux citoyennetés, la citoyenneté fédérée et la citoyenneté fédérale, et la seconde protège de la première. En cas de violation du droit fédéral, par exemple, en cas de discrimination raciste sur les lieux de travail, c'est à la victime d'user de sa citoyenneté fédérale et d'aller devant le juge fédéral pour demander l'application du droit fédéral contre le droit de l'État fédéré. Pour faire exécuter la loi, le juge dispose d'énergiques pouvoirs d'injonction contre les autorités administratives. Il est bien certain que dans un système où le juge fédéral peut ordonner la remise en liberté immédiate d'une personne arrêtée et incarcérée par les autorités d'un État, le juge fédéral est un grand pouvoir. Imagine-t-on le pouvoir qu'aurait le juge européen, disons un tribunal de première instance qui dépendrait de la Cour européenne des droits de l'homme, s'il pouvait ordonner, sous peine d'astreinte et d'emprisonnement de l'agent qui s'y refuserait, la remise en liberté immédiate d'une personne arrêtée et détenue en France. Les pouvoirs des juges fédéraux ont été considérablement renforcés en matière de procédure pénale après la guerre de sécession, avec l'adoption en 1867 d'une loi prévoyant un habeas corpus fédéral et les lois prises en exécution du 14e amendement à la Constitution des États-Unis en 1868. Notez que le régime d'exécution judiciaire des lois est essentiel pour comprendre pourquoi et comment s'est développé ce trait de la culture de common law qui faisait l'admiration de Tocqueville, ce qu'il appelait, citation, « ce respect profond du droit, cet amour de la légalité, cette répugnance à l'emploi de la force ». Fin de citation. Ces caractéristiques sont venues d'Angleterre. Elles sont rentrées en Europe sous couvert de la « rule of law » inscrite dans la Convention européenne des droits de l'homme sous le terme de prééminence du droit ou encore d'état de droit. La deuxième raison qui explique la place éminente de la justice dans la société américaine est de nature constitutionnelle. C'est le fédéralisme. Les États, authentiquement fédéraux et pas largement décentralisés, se caractérise par une superposition de deux niveaux de gouvernement, chacun complet en eux-mêmes. S'il y a deux niveaux de gouvernement, il y a nécessairement deux niveaux législatifs. Ce qui implique, premièrement, une délimitation des compétences entre le niveau fédéral et le niveau fédéré, et deuxièmement, un principe de suprématie du droit fédéral sur le droit fédéré, faute de quoi l'Union se délite à proportion des législations autonomes sur des sujets d'intérêt commun. Dans tous les États fédéraux, ce sont toujours les juges qui remplissent ces deux fonctions, que sont la fixation des bornes de l'autorité fédérale et l'exécution concrète du principe de suprématie du droit fédéral sur le droit de l'État fédéré. Aux États-Unis, la délimitation des compétences entre le gouvernement fédéral et les États a été fixée par la Constitution, mais dans des termes très généraux, du type « le Congrès aura le pouvoir de réglementer le commerce entre États », qui n'ont reçu, bien entendu, de contenu précis qu'avec les nombreuses affaires portées devant la justice fédérale pour en déterminer le sens. De ce point de vue, la jurisprudence de la Cour suprême, sous la présidence de John Marshall, de 1800 à 1835, a été décisive pour l'évolution de la fédération. C'est John Marshall qui a transformé le pacte entre États qu'on avait cru conclure à Philadelphie en une constitution dont le sort a fini par échapper à ses auteurs, ce qui lui a valu de passer à l'histoire pour le grand architecte de l'unité nationale. Inversement, il est arrivé qu'au lieu de consolider l'Union, la justice la défasse. C'est ce qui s'est passé au moins une fois avec la malheureuse décision Dred Scott en 1857 qui radicalisa le mouvement anti-esclavagiste au Nord, enflamma les passions au Sud et amena indirectement la guerre de sécession. Un autre exemple, plus proche de nous, montre que c'est encore la justice qui a tenté au cours des 20 dernières années, sous la présidence de William Rehnquist, de faire renaître le fédéralisme au prix d'une réduction des droits de l'individu contre son propre État. quoi qu'elle fasse, la justice tient la balance de l'union entre ses mains. Comment s'étonner alors qu'elle ne soit pas regardée comme un grand pouvoir dans l'État ? Elle l'est même d'autant plus que la grande force de la justice dans les affaires de fédéralisme est de ne pas juger les affaires au fond. Elle ne dit pas si c'est bien ou si c'est mal, mais seulement qui, de l'État ou de l'Union, a compétence pour faire telle ou telle chose, de sorte que le jugement est neutre, lisse, et que son impartialité est rarement suspectée. En second lieu, le principe fondamental d'un État fédéral est que le droit fédéral doit primer le droit fédéré pour que l'Union subsiste. La suprématie du droit fédéral sur le droit fédéré est la plus importante caractéristique de la Constitution des États-Unis. Elle est prévue à l'article 6, alinéa 2 de la Constitution, et est connue sous le nom de clause de suprématie. Cet article dispose: la présente Constitution et les lois des États-Unis, qui seront prises pour son application, et tous les traités conclus ou qui seront conclus sous l'autorité des États-Unis, seront la loi suprême du pays, et les juges dans chaque État seront liés par ce fait, nonobstant toute disposition contraire dans la Constitution ou les lois de l'un quelconque des États. Concrètement, cela veut dire que c'est à la justice des États de faire fonctionner le fédéralisme. C'est elle qui, dans chaque État, a la responsabilité de faire respecter la suprématie du droit fédéral sur le droit de l'État fédéré. Le système américain d'exécution du droit fédéral par les juges d'État est très proche du système communautaire, dans lequel c'est aux juges nationaux qu'il appartient de faire respecter le droit communautaire. Il est certain que lorsqu'un juge d'État peut écarter sa propre loi nationale pour lui en substituer une autre de nature supérieure, sa position dans l'État en est très renforcée. Toutefois, il existe à cet égard deux grandes différences entre l'Union européenne et les États-Unis. L'une procédurale, l'autre de fond. D'un point de vue procédural, à la différence de l'Union européenne, les États-Unis disposent, en sus des juges d'État, de tout un système judiciaire fédéral qui est présent dans les États et dont la mission est de redresser la mauvaise application que ces juges font de la clause de suprématie. Autrement dit, la justice fédérale tient en tutelle toutes les justices d'État. Elle en tire un grand prestige, qui est d'autant plus considérable qu'il n'y a pratiquement pas de question juridique qui ne puisse venir devant elle. Le système n'avait pas été conçu de la sorte au départ. Il est la conséquence des mesures adoptées après la guerre de sécession pour éradiquer l'esclavage, tout en sauvegardant le fédéralisme, ce qui amène à dire quelques mots de la seconde différence de fond entre l'Union européenne et l'Union américaine. D'un point de vue matériel, il ne faut jamais perdre de vue qu'après la guerre de sécession, la solution du problème de l'esclavage est passée par ce que l'on appelle la fédéralisation des droits civils et politiques. À l'origine, le droit fédéral n'avait qu'une portée réduite. En 1788, au moment du débat sur la ratification de la Constitution fédérale élaborée à Philadelphie, Madison rassurait les États en expliquant que les pouvoirs du gouvernement fédéral étaient limités et définis, qu'ils portaient sur des objets externes, comme la guerre, la paix, les négociations diplomatiques et le commerce avec l'étranger. Par contre, disait-il, les pouvoirs des gouvernements des États restent innombrables et indéfinis, notamment par ce qu'il concerne le cours ordinaire des affaires. et qu'il s'exerce, disait-il, sur la vie, la liberté et les propriétés des citoyens. Ce partage de compétences a volé en éclats avec la guerre de sécession et l'adoption des 13e, 14e et 15e amendements qui ont fait passer sous le contrôle du gouvernement fédéral le respect par les États des droits civils et politiques de leurs citoyens. À la faveur d'une interprétation particulièrement extensive de ces dispositions qui a consisté à intégrer dans leur portée la quasi-totalité des dispositions du Bill of Rights, la justice fédérale est devenue aujourd'hui la grande protectrice des droits des citoyens des États. Aujourd'hui, la liberté et la propriété des citoyens sont sous la protection du droit des États-Unis et de la justice fédérale. Une justice qui peut obliger les États à accorder l'avortement, qui peut les obliger à garantir une totale liberté d'expression et qui peut les contraindre, quoiqu'à tout petit pas, à limiter leur droit de punir du châtiment suprême les crimes commis sur leur territoire, est une justice puissante. La troisième et dernière raison de la place puissante et respectée de la justice aux États-Unis tient à son pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois, ce que l'on appelle le pouvoir de judicial review. Le pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois est nécessairement lié au fédéralisme, mais seulement et uniquement dans sa dimension verticale, c'est-à-dire pour faire en sorte que les États ne prennent pas des lois contraires à la Constitution fédérale. Ceci dit, un État fédéral n'est nullement obligé d'adopter le contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois dans sa dimension horizontale, c'est-à-dire au niveau du gouvernement fédéral lui-même. C'est le cas de la Suisse, où le tribunal fédéral ne contrôle que la constitutionnalité des lois cantonales à l'exclusion des lois fédérales. Aux États-Unis, il en va différemment. La Cour suprême s'est reconnue le pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois du Congrès dans le célèbre arrêt Marbury contre Madison de 1803. Les États-Unis appliquent ainsi le contrôle de constitutionnalité des lois non seulement comme une technique du fédéralisme, mais encore comme une technique de la séparation des pouvoirs. Là est la grande raison du rôle politique de la justice dans la société américaine. C'est grâce à cette technique qu'elle s'est hissée au même niveau que le législatif et l'exécutif. Le contrôle de constitutionnalité des lois est une vieille technique judiciaire que les Américains n'ont pas inventée, mais plutôt réinventée. À l'âge monarchique, avant les constitutions qui changèrent le monde à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis et en France, les juges vérifiaient la conformité des lois du roi au droit. Ce système de contrôle de constitutionnalité existait presque partout. Seule variait la forme qu'il prenait. En Angleterre, il était postérieur à la loi, à la promulgation de la loi. C'était le pouvoir de judicial review, de révision judiciaire, dont l'idée avait été énoncée au début du XVIIe siècle par des juges anglais dans quelques affaires et dont l'usage était passé aux États-Unis. En France, le contrôle était préventif. Il intervenait avant la promulgation de la loi, sous la forme des remontrances des parlements. La pratique tomba en sommeil en Angleterre avec l'avènement de la souveraineté du Parlement et en France, elle fut balayée par la Révolution et la proclamation de la souveraineté nationale. Curieusement, elle s'est maintenue en Amérique. Et elle a même connu une seconde jeunesse dans toutes les républiques établies dans les colonies après l'indépendance. Comment expliquer cela? Principalement par le système de représentation retenu pour élire les représentants du peuple dans les assemblées législatives. Les Américains ont fait de la représentation de tous les intérêts dans les assemblées législatives, y compris les intérêts particuliers, le critère du gouvernement républicain. Autrement dit, aux États-Unis, la souveraineté est populaire dans tous les sens du terme. C'est le peuple qui est souverain. Le peuple, dans sa réalité de tous les jours. Le peuple fait de millions d'hommes et de femmes, établis dans 50 États. Le peuple composé d'immigrants venant de tous les continents, formés de toutes les races, de toutes les religions, de toutes les croyances, de tous les métiers et professions, de toutes les ethnies, bref, le peuple réel dans toute sa diversité. Il s'agit de représenter les individus dans toute cette réalité sociale, telle qu'ils se définissent par leur appartenance aux groupes qui forment la société, que ces groupes soient de nature raciale, de nature ethnique, économique, religieuse, l'objectif étant que tous les intérêts, sans exclusive, et quelle que soit leur nature, puissent être représentés dans le gouvernement. Ce système a le grand avantage de donner une image aussi fidèle que possible du corps social dans toute sa diversité. Il fournit une photographie de la société à un moment donné, telle qu'elle est formée d'une multitude d'intérêts et de communautés. L'inconvénient du système de représentation réelle est qu'il est assez facile aux intérêts les plus puissants de coaliser autour d'eux d'autres intérêts et de se transformer en une majorité intéressée et dominatrice, comme le dénonçait Madison à propos des factions qui s'étaient rendues maîtresses des affaires publiques dans les États après l'indépendance. La tyrannie de la majorité devient alors inévitable. Elle était d'ailleurs déjà devenue un poison et le grand sujet de préoccupation dans les États dès les années qui suivirent l'indépendance de 1776. C'est pour la contrer que très progressivement, on a vu les juges d'État exhumer la vieille doctrine de la révision judiciaire. Celle-ci devint progressivement la doctrine établie avant même la Convention de Philadelphie, même si elle n'était pratiquée qu'à dose homéopathique. La technique ne fut pas introduite dans la Constitution, pour cette simple raison que le frein aux ambitions d'une majorité intéressée et dominatrice était le veto présidentiel. La mise en place de deux partis politiques déjoua ce calcul. Lorsqu'il s'avéra que les freins et contrepoids savamment mis en place dans la Constitution fédérale étaient impuissants à empêcher un parti de tenir en même temps et le Congrès et la Maison-Blanche, la situation se produisit en 1800 lors de l'élection de Jefferson, la situation était mûre pour la théorisation du contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois et 3 ans plus tard, l'arrêt Marbury contre Madison fut rendu. Si le contrôle de constitutionnalité des lois a survécu à toutes les tempêtes qu'il a essuyées, c'est qu'il s'est adouci. Certes, on peut toujours dire avec Tocqueville que le juge joue aux États-Unis un grand rôle politique, quoique depuis la crise du New Deal en 1936-1937 et la partie de bras de fer avec entre l'administration Roosevelt et la Cour, les juges américains ne gouvernent plus et ne se mêlent plus d'entraver la politique économique et financière du gouvernement. Il n'en demeure pas moins que le pouvoir de judicial review leur permet de toujours exercer un rôle politique considérable, que beaucoup d'Américains qui n'en finissent pas de débattre de la légitimité de ce système au regard des exigences de la démocratie trouve excessif. Rien n'y fait. Plus fort que jamais, le contrôle de constitutionnalité demeure. Les Américains en ont même fait un critère de la démocratie. Comment expliquer cela? Par ce seul fait que la justice est la seule institution à laquelle les Américains font confiance. Le système de la représentation réelle, l'admission de tous les intérêts dans la compétition électorale, l'emprise des intérêts privés sur la politique, corporate America, l'Amérique des grandes sociétés, disent les Américains désabusés, font que les élus sont des personnages courtisés parce qu'ils ont du pouvoir, mais peu respectés. Le discrédit qui a toujours pesé sur le monde politique a fait que petit à petit, seul le juge est devenu l'organe à même d'éliciter auprès du citoyen la composante essentielle du régime représentatif qu'est la confiance. « The magic of the word confidence », a dit John Marshall dans une grande affaire de fédéralisme, McCulloch contre Maryland. Cela est si vrai que certains auteurs, qui ne savent plus quoi trouver pour justifier le contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois, en dépit de son caractère foncièrement antidémocratique, on arrive à dire que les juges sont des représentants du peuple chargés de faire vivre la Constitution en accord avec les aspirations populaires. La défiance qui pèse sur les élus a fait que dès les origines, la justice fut appelée à trancher des conflits que le politique était impuissant à régler à la satisfaction générale. Parmi les plus célèbres exemples, citons la ségrégation raciale en 1954 ou l'avortement en 1973. On serait tenté de dire que sur les grandes questions intéressant la morale et les libertés, la place de la justice est proportionnelle à l'impuissance du politique. Nombre d'excellents esprits dans notre République regardent cette justice américaine toute-puissante et rêvent de doter la France d'une semblable. Nonobstant tout le respect que l'on peut avoir pour ces voies autorisées, leur appel laisse sceptique. La France n'est ni un pays de common law, ni un État fédéral. Mais surtout, le système français de représentation n'est pas celui de la souveraineté populaire. Pour cette simple et essentielle raison qu'en France, la souveraineté est nationale. Qu'est-ce à dire? Tout simplement ceci. Les électeurs français ne sont pas représentés dans la législature par leurs intérêts particuliers, mais seulement par les intérêts qu'ils ont en commun et qui font qu'ils forment une nation. Les élus ont pour mission de satisfaire les intérêts de leurs électeurs, mais de voter dans le sens qu'en leur âme et conscience, ils estiment le plus conforme à l'intérêt général. À la Libération, lorsqu'il était d'usage de critiquer le parlementarisme à la française de la Troisième République et la maison sans fenêtre qui était le Parlement, on a dit que la distinction entre souveraineté populaire et souveraineté nationale était dépassée. Le premier projet de constitution en date du 19 avril 1946 avait prévu « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans le peuple ». Mais il était aussi dit dans le paragraphe suivant, pour tempérer les effets désastreux de ce principe sur la formation de la loi, « La loi est l'expression de la volonté nationale ». Finalement, comme on le sait, ce texte bâtard a été rejeté par le peuple et l'on en est revenu avec la Constitution de 1958 au principe de la souveraineté nationale dans une formule rénovée. La souveraineté nationale appartient au peuple français. La souveraineté nationale appartient au peuple français, mais dans une formule qui ne laisse aucun doute sur la pierre fondatrice du droit public français, qui est la souveraineté nationale, avec toutes les conséquences qui en découlent sur la représentation, la formation de la loi et le rôle du juge dans la République. De ce qui précède, il ne faudrait pas en conclure que la justice américaine n'ait rien à nous apprendre. Mais ce n'est pas du côté du pouvoir, du côté de la volonté qu'il faut regarder, c'est du côté de l'autorité, du côté du jugement. Comme dans tous les pays de common law, la justice fédérale américaine est une grande autorité parce qu'elle parle avec autorité. Et si elle parle avec autorité, c'est parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes qui n'ont rien à craindre et qui sont réellement indépendants. D'où vient cela ? Principalement du fait qu'ils ont l'esprit libéré des soucis de carrière, tout en restant responsables des jugements rendus, mais devant l'autorité politique, par la procédure d'empêchement qui peut déboucher sur une destitution. Tel n'est pas le cas en France, où une grande école, l'École nationale de la magistrature, calquée sur le modèle de l'ENA, prédispose le magistrat à obéir à des principes étrangers à l'indépendance d'esprit requise pour bien juger, comme l'obéissance hiérarchique et toutes les vicissitudes qui s'accompagnent, ou qui accompagnent plutôt le souci de plaire à l'autorité supérieure dans l'attente d'une promotion méritée. En d'autres termes, avant que de songer à faire de la justice un troisième pouvoir dans l'État, il faut s'atteler à en faire une véritable autorité. Ce qui suppose de cesser de traiter nos juges comme des fonctionnaires. À cet égard, les États-Unis, qui ont suivi l'Angleterre quant au statut des juges fédéraux, semblent parvenus à un bon équilibre. Le juge anglais n'est pas un pouvoir dans l'État, mais c'est une grande autorité. Il serait souhaitable que notre justice se cale sur certains des principes qui l'inspirent. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication de Madame Elisabeth Zoller, La place de la justice dans la société américaine, une communication qui a été prononcée devant les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 15 mai 2006.